RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Virginie Fulpin.
Il est 20h05 sur RMC, c'est notre dernier rendez-vous avec Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Thierry Bourguignon est à côté de moi en studio pour l'occasion.
Eh oui,
avant cette dernière étape sur les Champs-Élysées demain. Donc on a rendez-vous avec vous au 32-16, bien sûr avec toutes vos questions à nos deux membres de la Dream Team. Vous pouvez aussi utiliser Twitter, je vous le rappelle, avec le hashtag RMC Tour. Donc ce Tour de France 2013 se termine. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça ne vous a pas plu? Qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous avez aimé? On va demander par exemple à Frédéric qui nous appelle au 32-16. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir Virginie, salut Bourgui, salut Lucho.
Salut.
Bonsoir Fred.
Salut. Alors Virginie, si tu le permets, comme c'est la dernière, je vais me permettre une petite audace puisqu'on m'a confirmé aujourd'hui que tu avais une silhouette qui se collait parfaitement à ta charmante voix. Donc j'espère qu'un jour on aura l'occasion de te croiser.
Bah, voilà. C'est très gentil ça Frédéric, merci beaucoup.
C'est une demande en mariage ou...
Non, c'est une avance, c'est tout.
Juste
une avance.
Je prends ça comme un compliment. Mais c'est pas de ça dont tu voulais parler à la base.
Non, alors je veux parler du résultat du Tour de France qui, je pense, doit faire plaisir à Bourgui, qui était un petit peu tendu sur le dopage en début de Tour de France. Et je pense que les résultats, notamment d'aujourd'hui et des jours précédents, peuvent confirmer qu'on est quand même sur un tour qui semble assez clair quand même, vu les défaillances et la difficulté de certains coureurs à justifier leur niveau d'antan. Voilà. Mais juste avant de développer, si tu me permets, comme c'est la dernière, je voudrais dire un petit mot à Lucho.
Eh bien, décidément, oui. c'est l'heure.
Et oui, j'en profite. Lucho, ça fait 2 ans qu'il me doit un restaurant.
Ah bon?
Il y a les podcasts pour le prouver. Lucho, je te rappelle qu'en 2011, avant le contre-la-montre de Grenoble, on avait dit à l'antenne un petit pari tous les deux sur la victoire que tu pensais que Schleck allait pouvoir conserver avec ses 5 minutes d'avance. Et moi, je t'avais dit qu'à la fin du contre-la-montre, il en aurait au moins une de retard. Et finalement, il en a eu une et demie de retard sur Cadel Evans.
Ah oui, mais c'est pas une.
Donc, je te rappelle que tu dois venir sur
Bordeaux.
Donc,
il y a toujours un resto.
Tu dois un resto. Voilà.
Ah bon?
Donc, je compte sur vous pour lui donner mon téléphone en antenne, bien sûr.
Bah, d'accord, alors on prend le truc. D'accord, ok, ça marche.
Je prends rendez-vous.
Ok, sans problème.
Allez, vous allez prendre rendez-vous tous les deux, mais maintenant on va reparler du tour quand même.
On parle des choses sérieuses.
Paris va me donner ton numéro.
Alors Bourgui,
oui,
des choses sérieuses, c'est pour Bourgui. Comme c'est vrai que tu as été un peu tendu, j'ai trouvé en début de tour, lorsqu'il y avait beaucoup de questions, et je trouve qu'il y en avait beaucoup trop d'ailleurs, sur le dopage. Et ben moi je me suis dit, en regardant toutes les étapes, et encore la petite défaillance de mon chouchou Alberto aujourd'hui, que peut-être certains, sur qui on avait quelques doutes, roulent avec peut-être un peu plus d'eau claire dans les bidons, et que ça fait quand même du bien, je pense, sur le tour. Donc voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais, et si... de voir Quintana numéro 2, c'était peut-être pas mal.
Mais non, mais
rafraîchissant pour le tour.
Entièrement d'accord avec toi. De ce côté-là, on a vu un cyclisme avec des défaillances, avec des attaques, des chamboulements. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, où Contador, qui est un peu mon chouchou aussi, était limité et n'a pas pu ne serait-ce suivre les meilleurs. Bon, c'est une page qui se tourne aussi. Il y a quelques années qui sont là pour Contador. Et je pense, comme Cyril l'a dit tout à l'heure, je pense pas qu'il soit de nouveau pour la gagne sur un tour de France, ne serait-ce l'année prochaine.
D'accord, très bien. Impeccable.
Après, oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a eu des interrogations sur le dopage. Mais la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans une ère juste après celle d'Armstrong, et on a tellement été déçus, les gens unanimes là-dessus, les spectateurs, les journalistes et les sportifs ont été tellement déçus par 10 ans de mensonges que aujourd'hui ils sont réticents à tout prendre au premier degré, et ils boivent pas forcément les paroles de des gens qui gagnent. Donc c'est dommage, c'est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui pour moi, j'ai vu un grand tour et un beau tour. Un tour des années passées avec des défaillances, avec des gars qui ne pouvaient pas attaquer au pied de l'Alpe d'Huez et garder la même intensité jusqu'au sommet. Voilà.
C'est ce que je disais à Max hors antenne. En fait, moi, je pense que le fait qu'on ait enlevé les titres à Armstrong, a posteriori, ça, quand même, c'est bon pour les gars. Parce que même si les gars ne se font pas choper pendant leur carrière maintenant, eh ben, ils savent que dans 10 ans, dans 15 ans, s'ils avaient le super truc qu'on peut pas trouver, ben, dans 15 ans, on le trouvera. Et je pense que personne n'a envie, de pouvoir vivre ce qu'a vécu Hong Kong, hein. Je défends pas Hong Kong, mais je me dis, il a triché, et aujourd'hui, il le paye, et je pense que les gars, ils vont y réfléchir à deux fois maintenant, quand même. Et ça peut nous laisser, rêver d'avoir enfin, des prochains Tours de France, où on nous parlera pas dopage dès le début du tour, et qu'on pourra prendre plaisir à voir ces gars se défoncer sur leur vélo, parce que franchement, quand nous, on monte un col, on se demande comment ils font vraiment pour monter tous ces cols, parce que vraiment, c'est des super champions, quoi.
Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent, et bon, ils ont forcément des capacités, intrinsèques. Hors normes, et puis il y a tellement de boulot derrière, mais les gens ne se rendent même pas compte. C'est pour ça que le vélo est décrié, parce que une personne qui prend son vélo le dimanche une fois par semaine ne peut pas penser une seule fois monter aussi vite un col. Voilà,
et comme je dis,
et voilà, comme j'ai toujours défendu la chose, on ne peut pas monter le col au mois de décembre comme on le monte au mois de juillet. Voilà, c'est tout.
Merci Frédéric d'avoir appelé 3216. À très bientôt.
À bientôt Virginie. Et Lucho, attention.
Oui, hein, oui, il n'a pas oublié.
On donne son numéro.
Merci. Allez, Frédéric, à très bientôt sur l'antenne d'RMC. Messieurs, sur Twitter, on nous dit, ça y est, Contador est fini, vu ce qu'il a montré. Je pense que la nouvelle génération l'a définitivement dépassé. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vas-y, parle un peu, Lucho.
Attends, vas-y, parce que là, j'étais dans le cabinet.
Est-ce que Contador est fini, comme le suggèrent certains internautes sur Twitter?
Il est fini, oui. Il va pas gagner le tour dans les prochaines années, ça c'est clair et net. Hein. Maintenant, ses places au Quintana, voire Froome aussi, il a encore de l'avenir. Mais il faut tirer un trait sur l'ère Contador. Et puis bon, on l'a bien vu, hein, il est maintenant trop juste. Il a du mal. Hein. Il subit en permanence. Il y a que vraiment au chrono où il s'en est très bien tiré, le deuxième chrono où c'était vraiment un terrain pour lui. Mais on voit bien que dès qu'il y a des attaques à répétition, et notamment dans les dernières ascensions, ben il est pas présent. C'est fini. Donc,
on peut dire qu'il ne gagnera plus le Tour de France.
Non, il gagnera plus le Tour de France. Oui. Oui, maintenant, et puis il faudra compter sur des nouveaux coureurs, des nouveaux noms, et c'est très très bien comme ça. C'est très bien comme ça.
Alors, on va aussi parler des Français de ce Tour de France 2013, avec Nicolas, notamment, qui nous appelle au 3216. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir tout le monde. Salut Luc.
Salut
bonsoir.
Nicolas.
Et Bourgui, qui est là aussi.
Eh oui. Eh bien, écoutez, moi, par rapport à ce que je viens d'entendre, là, je suis désolé de penser un petit peu le contraire, mais vraiment, j'aimerais savoir où c'est que vous vous êtes régalé sur ce tour, qu'est-ce qui vous a fait vibrer et comment vous avez pu le suivre, parce que moi, honnêtement, je me suis fait chier devant ce tour, un truc de fou, à part l'étape de l'Alpe d'Huez où on a Riblon qui nous a vraiment fait quelque chose de sympa et vraiment cool parce qu'il est allé chercher devant et on avait la pression jusqu'à 1,5 km de l'arrivée qu'il y arrive ou pas, c'est pas il avait un quart d'heure d'avance sur le deuxième. Est-ce qu'il y a une étape qui vous a fait vibrer, que vous avez eu envie de suivre? On a Froome qui a 5 minutes d'avance sur le second, on a en plus il y a toutes les suspicions de dopage cette année où effectivement c'était pas évident avec l'affaire Armstrong, avec Ulrich, avec Jalabert juste avant le tour, où nous, à un moment donné, spectateurs, on se demande si on n'est pas un petit peu pris pour des cons. On a quand même Froome qui met une accélération d'un autre monde dans le Mont Ventoux, qui aujourd'hui est prêt à parier 10 000 euros que dans les 5 prochaines années, il ne va pas être déclaré dopé sur ce Tour de France, parce que quand même, ça met la puce à l'oreille. Et puis depuis l'étape d'Axe-les-Thermes, on savait déjà que Froome, il serait gagnant et qu'il aurait son maillot jaune jusqu'à la fin. Donc,
il y a quand même le podium qui s'est joué à l'avant-dernière étape là aujourd'hui, hein. Donc
ouais,
du suspense
podium,
on en a eu dans ce Tour de France
qui s'est joué. C'est vrai que dans le contre-la-montre c'était sympa de voir ça, c'est vrai qu'aujourd'hui on a un changement de place et tout, mais enfin bon, qu'on ait un premier français qui se bat pour être dans le top 10 ou qu'on ait un quatrième qui se bat pour être troisième ou second, bon, c'est pas du tout pareil que si on a 4 ou 5 coureurs qui se battent à 5 ou 10 secondes de près pour la première place et pour c'est un petit peu comme si Nadal il gagnait la finale de Roland. Roland-Garros en 1h15, 3-7 et le dernier 7-5 avec un peu de suspense. Bon, franchement, quelle est l'étape qui vous a fait...
C'est un peu ce qui s'est passé cette année, hein, cela dit, pour Nadal.
Non, mais voilà, mais moi, franchement, je vous dis, je bosse dans un café sur Montpellier en ce moment, je vous assure que vraiment, on n'a personne en terrasse qui est devant le tour et que ça n'a absolument rien à voir avec quelques fois, par exemple, il y a 2 ans, quand on a Beauclerc qui défendait son maillot jaune.
Non, mais Nicolas,
qui était sur la terrasse et qui regardait, qui avait vraiment envie.
T'es pas passionné de vélo, t'es passionné quand les Français gagnent. Et moi, quand je regarde un match de tennis, quand il y a un Français qui perd, bon, ben, si c'est un beau match, c'est un beau match. Et tu peux pas dire que tu t'es emmerdé, après chacun son truc, mais tu t'es emmerdé sur ce Tour de France, tu viens de dire.
Je représente un bon 90%.
Oui, oui, 90% de tes connaissances. 90% de tes connaissances. 90% de tes connaissances, je le dis.
Des gens qui regardent le Tour de France.
Et l'étape 13, Tour Saint-Amand, ça t'a pas emballé, cette étape. L'étape de bordure de Tour. Non, ça t'a pas embêté. Tu t'es embêté.
Mais qu'est-ce qui t'a emballé pendant cette étape, quoi, honnêtement?
Tu n'aimes pas le vélo, désolé. Désolé.
Parce que là, il y avait une stratégie. Tu peux pas dire ça. Je suis désolé.
Dans cette étape, il y avait une stratégie des équipes.
Déjà, si tu aimes le vélo, tu aurais compris un petit peu la stratégie de tout ce qui s'est passé depuis le début du tour. La stratégie de la Sky. La stratégie, comme dit Thierry, Tour Saint-Amand avec les bordures. C'était vraiment une stratégie digne des grandes équipes, quoi. Je veux dire, attends, là, tu peux pas faire mieux, quoi. Là, aujourd'hui, l'Alpe d'Huez. Enfin, je veux dire, mais attends, nous, on s'est régalé pendant trois semaines. Le chrono, le deuxième chrono, il était formidable. Mais non, mais attends, mais le public, mais alors, si vraiment tout le monde s'était emmerdé. Écoute, non, mais attends, laisse-moi parler.
Nicolas, on va laisser répondre.
Si 90% des gens, tu dis, se sont emmerdés à voir le tour, pourquoi il y a eu entre 800 000 et 1 million de personnes dans la montée de l'Alpe d'Huez? Pourquoi il y avait autant de monde aujourd'hui sur toutes les routes du Tour? Tous les jours, il y a eu du monde. Alors, si les gens s'étaient emmerdés sur le Tour, ils ne seraient pas venus voir les coureurs, ils ne seraient pas venus voir le Tour de France.
Mais il ne faut pas dire que c'est toujours un événement. Est-ce que des fois, t'as pas des stades qui font 80 000 personnes et au final, à la fin du match, tu te dis, je me suis fait chier comme pas possible.
Ah, ça arrive.
T'as eu un pauvre 0-0 avec zéro action et on va pas te dire, oui, et comment ça se fait qu'il y a eu 80 000 personnes dans le stade? T'as toujours énormément de monde sur ce Tour de France. Moi, je suis en train de t'expliquer que qu'est-ce qu'il y a eu sur ce Tour de France? Dis-moi, quelle est ta
stratégie? Tous les jours, il y a eu quelque chose.
Il y a eu
un Colombien qui est arrivé, on s'y attendait pas. Ça a été une effervescence sur le Tour par rapport à ce Colombien. Rodriguez, tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne une étape, mais de là faire troisième. Il y a eu des changements au niveau des maillots, le maillot à pois avec Pierre Roland. Est-ce qu'il voulait le prendre? Est-ce qu'il voulait pas le prendre? Froome qu'il avait, c'est Quintana qui l'a au classement général. Les maillots verts aussi avec t'as les Cavendish, les Greipel, les Kittel. Il y a eu des embardés dans les arrivées plates au sprint. C'était magnifique. Ce que veut dire Nicolas,
c'est que
il y a pas eu de Français, c'est pour ça.
Froome a cassé le suspense. Et ça c'est sûr. Là-dessus, le seul point où je suis d'accord avec Nicolas, c'est ça.
C'est pas la première fois dans l'histoire du Tour de France qu'il y a le maillot jaune qui écrase la course, finalement.
Mais après, on a eu quand même de belles étapes.
T'as dû t'emmerder, alors. Enfin bon, je sais pas l'âge que tu as, mais au temps de Bernard Hinault, on a dû s'emmerder, alors. Parce que Bernard Hinault, il prenait le maillot pratiquement le premier jour, il le gardait jusqu'à Paris. Ou alors avec Merckx, avec Anquetil. Je veux dire, il y a dans chaque décennie, il y a un grand champion qui arrive, et puis Froome en fait partie. Et il a dominé le Tour, comme Bernard Hinault l'a dominé par le passé, comme Anquetil l'a dominé par le passé, comme Merckx l'a dominé par le passé, et les gens sont pas emmerdés. Quand Anquetil a gagné le Tour, quand il y a eu le duel Anquetil-Poulet d'Or dans le Puy-de-Dôme, personne s'est emmerdé. Le Tour, on s'emmerde jamais.
Mais il y a plein de gens qui ne se sont pas emmerdés. Hein. Par exemple, Bruno qui nous appelle au 32-16. Bonsoir, Bruno.
Salut la fine équipe. Mais non, je me suis pas embêté. J'étais chez Mathieu Aurélie, les pieds dans la piscine, la télé devant, la radio, super. Formidable.
Tu peux l'aimer la vie, toi.
Ça s'est bien passé cet après-midi.
Mais oui, le Tour m'a plu. Le Tour m'a plu par rapport à l'auditeur précédent. J'ai suivi la dernière Vuelta. toutes les étapes, c'était quasiment une arrivée au sommet. Et à la fin, ça m'a saoulé, quoi. Il en faut pour tout le monde. Il faut du chrono. Il faut des coups de barre. Le coup de bordure extraordinaire, quoi. Je veux dire, ça fait plusieurs années, on n'avait pas vu ça. Voilà. Moi, quoi, je sais pas si lui aime le vélo. On va dire que oui, mais moi, je l'aime aussi et j'aimais ce Tour de France. Et c'est le gros plus. Bravo au parcours. Bravo aux coureurs. Parce que je dis bravo à Contador parce qu'il a été digne d'un. Oui. Il a flanché et c'est beau à voir. On a vu des rebondissements, on a vu Valverde aussi. Valverde, il est à 200 mètres du groupe maillot jaune, il rentre pas quoi. Il rentre pas, il prend un quart d'heure. C'est la magie du Tour. On a retrouvé le seul bémol c'est Froome parce qu'il semble hors norme et hors du lot. Bon, mais on lui laisse le bénéfice du doute. Mais derrière, quoi, c'est fabuleux, quoi. Pour Ito, moi j'y croyais plus, et bien regardez aujourd'hui où il est, il est sur le podium. Donc encore une fois, bravo aux coureurs qui se passent par des hauts, par des bas et qui ont utilisé le parcours à merveille. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, chacun a vu son propre Tour de France.
Entièrement d'accord avec toi, Bruno. Hein, parce qu'il y avait un parcours qui était à la hauteur, mais il y a eu aussi des acteurs à la hauteur. Et tu l'as dit, on enfonce Contador parce qu'on dit que Contador n'est plus dans l'allure, et c'est un constat. Mais il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours attaqué avec le peu de force qu'il avait peut-être par rapport à ses adversaires qui étaient Froome et Quintana et Rodriguez aujourd'hui. Mais franchement, il s'est couché avec les honneurs.
Avec les honneurs, et Contador, il est à 8 secondes de Froome sur leur dernier chrono. Alors peut-être que Froome n'est pas à bloc sur ce chrono-là, mais un peu plus, il repart pas loin d'avoir la victoire d'étape. Donc bravo, quoi. Bravo à tous et vivement 2014, quoi.
Ah, bravo. Et il l'aurait mérité, l'étape, hein, quand même.
Ouais, il l'aurait mérité. Ouais, franchement, il l'aurait mérité. Et bravo à toute l'équipe de la Dream Team, on va dire Tour de France, Virginie et vous, les garçons, et tous de l'après-midi. Bravo pour ces moments.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
À bientôt.
Merci, à bientôt. Salut. Sur l'antenne d'RMC. Merci d'avoir appelé le 32-16, comme vient aussi de le faire Guillaume. Bonsoir, Guillaume.
Bonsoir Virginie. Bah déjà je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pendant 3 semaines. Voilà, je suis d'accord avec l'auditeur précédent, vous avez été super.
Que de compliments. Merci, ce soir.
T'es gentil.
Merci.
Voilà. T'es gentil.
Toujours sympa.
Donc je voulais aussi parler de ce Tour de France 2013. Donc ça a été un beu Tour de France, surtout au niveau attaque dans l'école. On s'est quand même moins emmerdé que l'année dernière où Viking vient le Tour en faisant zéro attaque, zéro contre-attaque et en claquant zéro étape. Moi je regrette juste, je sais pas ce que vous allez en penser, mais je parle souvent du charisme dans le sport, quelque chose d'au-delà de la performance, d'au-delà du sport en lui-même. Je suis désolé, un gars comme Froome qui garde l'oreillette 24 heures sur 24, qui parle à Nico Portal pendant toute l'étape, c'est pas forcément la même trempe qu'un Thomas Vauclair qui va enlever l'oreillette à 60 bornes de l'arrivée et courir qu'avec sa tête, quoi. Donc moi, je sais pas ce que vous allez en penser, mais enfin c'est pas non plus pareil qu'un Armstrong, même si voilà qu'il soit dopé, c'est pas la même trempe. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors, a-t-il du charisme, notre ami Froome?
C'est le charisme,
c'est pas un problème d'oreillette.
Bah, le charisme simple d'un Christopher Froome, je trouve que le gars, il aspire rien, quoi. Il aspire rien.
Bah, c'est vrai qu'il fait déjà assez timide, il fait assez introverti, jeune. Il dégage pas le charisme de certaines personnes, mais après
je sais pas moi. Alors moi je
lui demande, est-ce que la victoire peut lui apporter du charisme?
Attends,
sans doute aussi.
Il va je pense il va en prendre un petit peu avec le temps, parce que là il y avait la pression du Tour.
Tu appelles quoi le charisme? Pour avoir du charisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du charisme?
Tu dégages quelque chose.
Attends, moi je suis pas du tout d'accord. Attends, pour moi, il dégage plein de choses, quoi, Froome. Moi je sais pas.
Il fait pleurer chaque fois que tu le vois. Hein,
mais non, mais c'est pas ça. Attends, je veux dire, le mec, il a.
Il fait triste.
Oui. Non, mais il a toujours le sourire.
Il est gentil.
Non.
Il est bien poli.
Il est gentil.
Non, mais attends. Non, mais Guillaume, t'as raison. Quand on dit dans le Grand Sud.
Vas-y,
il est gentil,
hein.
Ça veut tout dire.
Pour moi, il a du charisme. C'est un vrai athlète. Il a beaucoup d'humilité. Et tu sens que c'est un mec qui a énormément de cœur. Et moi, je vois son comportement sur le podium. J'ai vu son comportement quand il allait signer la feuille d'émargement le matin. Il dit bonjour au commissaire. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien.
Mais Guillaume, t'as pas dit que c'était pas quelqu'un de bien.
Il a un état d'esprit. Il manque de charisme. Il manque pas de charisme pour moi.
Attends, tu sais ce que c'est le charisme?
Mais oui, non, mais
on verra aussi ce que ça donnera une fois qu'il aura gagné le Tour de France.
De la gentillesse, c'est tout.
Ouais. si tu veux.
Merci en tout cas Guillaume de nous avoir merci donné Guillaume, ton avis sur l'antenne d'RMC. À très bientôt au 3216. Au revoir. Rapidement, puisqu'on est pressé par le temps, Joël est également au 3216. Bonsoir Joël.
Oui, bonsoir. Merci à votre équipe. Oui, moi, je souhaitais intervenir par rapport à l'analyse que vous avez fait sur Froome, qu'il est bon, certainement qu'il est un petit peu fatigué sur l'affaire et que vous avez été vite en besogne en prétendant que Quintana pouvait certainement gagner le tour, quoi.
Ah, on n'a jamais dit ça.
Vous avez dit que peut-être que l'année prochaine il gagnera.
Ah oui,
pas
pour
le
les
tour,
prochaines
quoi,
années, ouais. Oui, ouais. Bah, il peut gagner. Oui, c'est un vainqueur potentiel de pour le tour.
Si Quintana il était si fort que ça, il aurait pu aller le chercher au Mont Ventoux, il aurait pu aller le chercher à Brunascra, il n'y a pas été quoi.
Non, mais attends, c'est son premier tour, Quintana. C'est son premier tour. Il a que 23 ans.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce jour-là, c'était Froome le plus fort. C'était
Froome. Mais on n'a jamais dit le contraire. On n'a jamais dit le contraire. On ne dit pas le contraire. Froome était le plus fort.
Non, mais c'est normal qu'il finisse relativement épuisé, quoi. Je veux dire,
oui, mais Quintana a fait le nombre de kilomètres que Froome a fait. Pas ça. C'est que à 23 ans, Quintana,
il a les capacités de gagner le tour, de gagner le tour.
Sur l'avenir. Et je pense que s'il gagne pas, il sera souvent sur le podium en tous les cas.
On va le revoir jouer les premiers rôles dans les prochains Tours de France.
Non, il n'était pas d'accord avec nous, hein.
Non.
Non, je pense pas parce qu'il faut être complet sur tous les domaines et vous savez très bien que dans le contre-la-montre, il pourra pas suivre, quoi. Voilà.
Il fait cinquième dans le dernier chrono. Hein. Après, ça dépend comment se retracer le tour. Si le tour, il n'y a qu'un chrono, par exemple, un chrono de montagne et tout ça, il est capable de gagner le tour. Hein. Et puis ça dépendra aussi des arrivées au sommet, combien il va y avoir d'arrivées au sommet. Il y a plein de choses qui vont rentrer.
Et puis une année ressemble pas à l'autre.
Ouais, exactement.
Oui, mais justement, c'était vraiment une année pour lui cette année, quoi. C'est vraiment une année particulière.
Ah, mais si c'est son premier tour, il faut peut-être le laisser arriver. Oui. Enfin, je sais pas, moi je dis ça comme
non,
ça.
Non, mais attendez, moi dans le discours tout à l'heure, je me suis gardé de dire qu'il allait gagner le tour dès l'année prochaine, hein, de toute façon. Je pense même qu'il a quelques lacunes en chrono.
Il faut attendre deux, voire trois ans, mais on ne sait jamais.
Il faut qu'il progresse énormément pour
En tout cas, il a peut-être des limites sur le chrono, ouais. Mais moi j'ai vu quand même quelques limites de Froome dans les arrivées comme aujourd'hui au sommet. C'est pas la première, même l'Alpe d'Huez.
Oui, mais d'accord.
Mais si tu veux, par rapport à l'expérience que Quintana a acquérie cette année, je suis sûr qu'à partir de l'année prochaine, il va se refaire le film du Tour de cette année en voyant Froome quand même à la limite de la rupture à certains moments. Et je pense que les erreurs qu'il a faites cette année, Quintana ne va Il ne va pas les refaire l'année prochaine et que ça sera complètement différent. Donc on verra bien. Hein, on verra bien. Mais tu sais, quand tu attaques sèchement, tu fais un trou d'un seul coup et puis que tu n'arrives pas à gérer l'avance que tu as et que tu te fais reprendre par un Quintana qui revient au train.
Mais ce que vous dites, c'est vrai. Mais dans l'étape du Mont Ventoux, ce que vous dites, c'est faux parce qu'ils n'ont pas pu revenir sur lui. Donc c'est vraiment parce qu'il était fatigué à la fin du tour.
C'est pour ça que la dernière semaine est la plus importante.
Sur ce tour, le plus fort, c'est bien Froome.
Oui, ça c'est clair.
Merci beaucoup Joël d'avoir appelé le 32-16. À bientôt sur l'antenne d'RMC. Et ça y est, c'est terminé, hein, c'est terminé messieurs pour ce Tour de France 2013, pour en tout cas pour notre rendez-vous de 20h05 à 20h30. Hein. Demain à cette heure-là, ce sera la dernière étape, l'étape en nocturne qui arrive sur les Champs-Élysées, qui va se terminer par un feu d'artifice.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant tout ce tour. Vous allez encore nous faire vivre cette étape demain.
On ne sera plus ensemble alors là.
C'est terminé.
Alors un coucou à toute la caravane du Tour qui remonte sur Paris, quoi. Parce que tout le monde remonte sur Paris, que ça va être galère, que ce soit les camions et tous les potes de la caravane.
D'Annecy à Paris, effectivement, ça fait un bout de chemin. Merci beaucoup, messieurs.
De rien, ma Virginie.
À demain pour l'intégrale Tour. Mais moi
Bisous.
Aussi. À demain.
Ciao.
À tous les deux. Nous maintenant, on va parler football avec notre invité dans un instant, qui est Daniel Yuboya, tout nouveau joueur du RC Lens. À tout de suite.